Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, le plan bleu vient de publier Méditerranée 2050, 6 scénarios sur l'avenir de la Méditerranée. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Guillaume Saint-Denis, qui est docteur en sciences politiques, ancien directeur de cabinet de Corinne Lepage, hein, et qui est aujourd'hui le président du plan bleu, et il va nous en parler. Et Denis Lacroix, qui est là avec nous aujourd'hui aussi, qui est passionné de mer et d'aquaculture, qui est ancien de l'agro, qui est chercheur à l'IFREMER et qui donc aujourd'hui, en tant que secrétaire général du Plan Bleu, devient, enfin, à travailler à l'élaboration des scénarios. Alors, bonjour à vous deux. Alors, Guillaume Saint-Denis, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez été nommé à la tête du Plan Bleu, finalement, il n'y a pas très très longtemps.
2021, quand même.
Voilà. Enfin, ça fait...
4 ans, oui.
Oui, pour prendre en main une institution aussi importante, c'est quand même assez peu de temps. Ça permet de bien la connaître. Hein. Alors, ouais. Le Plan Bleu, c'est une très grosse organisation.
Alors, ça, tout dépend de ce qu'on appelle gros. C'est une organisation ancienne et légitime, puisqu'elle a été créée dans les années 70 à l'initiative de la France, qui a donc été très en pointe dans la protection de la Méditerranée à cette époque-là. Tant pour faire adopter la Convention de Barcelone, qui est la convention donc qui régit la protection de la Méditerranée et la coopération des pays entre eux pour ce but, que en mettant à disposition de cette convention ce centre d'expertise qui est devenu le Plan Bleu et qui a donc dont on va fêter bientôt le cinquantenaire et qui a pour objet de produire un certain nombre d'études, d'éléments d'expertise, de données au service des 21 pays de la riverains de la mer Méditerranée.
Oui, alors justement, à quoi il sert exactement ? On n'en entend pas tellement parler finalement, et pourtant c'est une institution qui est déjà ancienne. Donc, est-ce qu'on peut par exemple citer des choses que le Plan Bleu a déjà réalisées ou a réussi à faire ?
Bien sûr, alors c'est vrai qu'on communique sans doute insuffisamment, mais le Plan Bleu publie chaque année beaucoup d'études. Parmi les études connues, il y a ce qu'on appelle le rapport RED, c'est-à-dire le rapport sur l'état de l'environnement en Méditerranée, hein, qui fait référence, qui est publié à intervalles réguliers, qui est un peu la référence de l'état de l'environnement, des pressions. La dernière édition remonte à 2021. Et puis, il y a les rapports de prospective, donc, dont nous allons parler. C'est le troisième rapport de prospective que, à peu près tous les 20 ans, nous sortons un rapport de prospective qui demande plusieurs années de travail. Et puis, il y a d'autres travaux qui sont des travaux plus techniques, moins grand public, qui sont surtout à destination des professionnels ou des spécialistes des questions d'environnement dans les pays méditerranéens.
Alors, la Méditerranée est un peu votre terrain de jeu, on va dire. Donc, nord, sud, est, ouest, pour nous, à Montpellier, souvent, ça se limite à un bout de plage qui va du Gros du Roi jusqu'à Perpignan. Mais finalement, la Grande Bleue, bah, c'est essentiellement le tourisme, c'est la mer, c'est... Voilà, et... Pour d'autres pays qui sont autour, c'est quand même autre chose aussi, sans doute.
Oui, alors vous avez raison de rappeler la dimension nord-sud, parce qu'elle était très présente dans les années 70, au moment de l'écriture de la Convention de Barcelone et de son adoption, et de celle des protocoles. Et quand on lit les textes aujourd'hui, on est frappé par cette dimension nord-sud qui est restée dans ces textes. Hein, c'était une dimension très importante des relations internationales à l'époque, peut-être plus qu'aujourd'hui. Et donc, il y a l'idée, une des idées qu'il y a dans ce système juridique, c'est que les pays du nord de la Méditerranée, du nord de la rive nord, doivent aider les pays de la rive sud à progresser vers le développement durable, ce qu'on essaye de faire, puisqu'en fait...
Ils sont plus pollueurs que nous.
Alors, je ne dirais pas ça comme ça, je dirais qu'ils ont un développement qui est encore à faire, et que l'idée, c'est qu'ils fassent ce développement en tenant compte de l'environnement, alors qu'évidemment, quand on est dans un état de développement moins avancé, on a plutôt tendance à vouloir se développer d'abord et protéger l'environnement ensuite. Là, l'idée, c'est de faire les deux en même temps, y compris en essayant d'éviter un certain nombre d'erreurs que les pays du Nord ont faites.
Alors, est-ce que vous avez l'impression, parce que ici, c'est une question qu'on se pose beaucoup, que la Méditerranée, est-ce qu'elle va mieux, est-ce qu'elle va moins bien? Enfin, ici, on est très partagé. Tantôt, on dit c'est une catastrophe, tantôt, on dit il y a eu des gros progrès. Alors, votre avis à vous?
Alors, c'est incontestablement les deux. C'est-à-dire qu'il y a des signes de dégradation, il y a aussi des signes d'amélioration. Je prends quelques exemples. On a une espèce qui était quasiment en voie de disparition en Méditerranée, qui est le phoque moine, et qui ne restait plus que sur une seule île en Grèce, et qui revient, maintenant qu'il est plus complètement rare de voir des phoques moines en Grèce, dans la mer Égée. Le balbuzard pêcheur, qui était quasiment menacé d'extinction en Méditerranée, est revenu dans des proportions beaucoup plus importantes qu'avant, au point même de renicher en France continentale, ce qui ne s'était pas vu depuis assez longtemps. Et on a aussi des phénomènes d'évolution des espèces, certaines espèces, par exemple les tortues qui viennent maintenant beaucoup plus sur les plages du sud de la France. Alors ça, c'est pour des raisons probablement de réchauffement de l'eau, donc c'est pas forcément un bon signal en soi, mais voilà, il n'y a pas que des signaux négatifs, il y a quand même des signes positifs. Il y a une protection du littoral qui, par exemple en France, est relativement bien faite grâce à la loi littoral et à l'action de conservateurs du littoral, où on a quand même d'assez grandes parties du littoral méditerranéen qui sont encore protégées et qui, en théorie, sont préservées de l'urbanisation pour le moyen et le long terme. Voilà, donc il y a des actions possibles et on arrive à des résultats positifs quand on peut.
Alors j'ai oublié de dire que vous étiez aussi passionné de biodiversité. On a vu aussi revenir les Posidonies, par exemple.
Oui, alors ça c'est un peu, ça dépend où. Hein. Il y a des endroits, lorsqu'on fait comme a très bien fait le parc national de Porquerolles, par exemple, en effet, là, elles reviennent. Mais il y a aussi des endroits où elles sont encore endommagées par les ancres de bateaux et autres pollutions.
Alors, Denis Lacroix, vous qui avez travaillé de manière scientifique sur cette Méditerranée un petit peu, d'abord, on dit que c'est un hotspot. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est un lieu remarquable qui se distingue de la biodiversité moyenne. Et cette petite mer, hein, 1% de la surface de l'océan, rassemble 11% de la biodiversité marine du monde. Donc, alors vous allez me dire que c'est aussi peut-être parce qu'on l'étudie de plus près, ce qui n'est pas inexact. Mais il n'empêche, donc ça, il y a une extrême diversité des espèces et ça c'est un signe fort de la bonne santé d'une mer. Il faut reconnaître que dans certains endroits, eh bien, cette biodiversité elle est dégradée et donc ça vaut la peine de réfléchir à comment est-ce qu'elle peut se restaurer, sachant qu'on ne reviendra jamais à l'état initial.
Alors on dit, quand on parle au spot aussi, on se place dans le cadre du réchauffement climatique et on s'aperçoit que cette petite mer intérieure, comme on dit. Alors d'abord, vous allez nous dire pourquoi on a un peu tendance à la considérer comme une mer fermée elle est quand même plus chaude que les autres.
Oui, alors comme c'est une mer qui ne se renouvelle que tous les 80 ans, ça veut dire qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on fait, parce que le temps de la... C'est pas comme dans l'océan ouvert. Et puis, elle rassemble aussi les rejets de bassins versants considérables, une activité importante, notamment sur les rivages, un trafic maritime extrêmement développé, et pas seulement les hydrocarbures, hein, mais aussi les trafics de conteneurs.
Et vous avez vu, cette semaine, ça va être pire encore, puisque Emmanuel Macron vient d'offrir à l'Inde un passage particulier pour tout un transit méditerranéen.
Oui, alors il y a notamment un apport qui ne se voit pas, c'est que beaucoup de bateaux naviguent sur ballast, comme on dit, hein, et puis quand ils arrivent au port, ils vident leurs cuves, et donc on transporte des milliers de mètres cubes d'eau extraits dans un endroit et relargués dans un autre. Alors la plupart des animaux, enfin de la flore et de la faune présente, meurent, mais une partie survivent, donc on transporte des bactéries, des virus, des algues, du zooplancton.
On a eu l'occasion d'en parler longtemps dans le cadre des envahissantes. Enfin, quand on a fait des émissions sur les envahissantes, notamment avec le poisson-lion et avec le crabe bleu.
Exact.
Alors, vous avez, pour faire vos scénarios finalement, vous avez travaillé comme travaille le GIEC, c'est-à-dire que vous avez mis comme ça plein de chiffres dans un machin et puis c'est une grosse machine qui a tourné et qui a fait pour vous un travail?
Alors, je pense qu'il faut considérer que la méthode n'est pas la même. Le GIEC travaille avec des rapports produits par une centaine d'universités et de centres de recherche et ils utilisent des résultats qui, après, avec des équations qu'ils modifient à la marge et puis ils calculent les résultats statistiques sur les résultats, sur ce qui est produit. Dans notre cas, nous, on a utilisé la méthode des scénarios, qui est basé sur 37 variables déterminant l'évolution
de
la Méditerranée.
Alors justement, les 37 variables, vous avez, on a l'impression quand vous en parlez que c'est un exploit. Mais ça veut dire quoi, 37 variables ?
Ben, on essaie de répondre à une question finalement toute simple. Qu'est-ce qui fait évoluer la Méditerranée ? Voilà. Et donc, si on y réfléchit...
Donnez-nous des exemples de variables.
Eh bien, par exemple, la population. Donc, selon que la population continue à augmenter, se stabilise ou diminue, on ne va pas avoir la même évolution. On peut considérer aussi que la température, par exemple, est-ce qu'elle va s'accélérer, sa hausse va s'accélérer, elle va rester relativement stable. Et ça, c'est un critère très important, parce que ça va déterminer beaucoup d'effets derrière. Donc, on prend les grands critères qu'on imagine avoir un effet sur les futurs de la Méditerranée, à un horizon finalement relativement proche, parce que 2050, c'est 25 ans. C'est une génération, grosso modo. Et donc, on peut dire que pratiquement les tendances lourdes qui sont déjà à l'œuvre ne vont pas être modifiées lourdement, par définition. Par contre, il peut y avoir des ruptures, hein, des points de basculement d'écosystèmes. Et le danger, ça serait que ces points soient irréversibles.
Alors, il y a 6 scénarios. Est-ce qu'on va du plus pessimiste au plus optimiste ?
Non, on n'établit pas une échelle de gradation du meilleur au pire. On essaye de voir, en combinant ces 37 variables et en faisant entre 3 à 5 hypothèses par variable, donc vous voyez, ça fait une quantité considérable de scénarios possibles, on sélectionne ceux qui sont les plus plausibles, ceux les plus crédibles, en étirant les futurs possibles.
Et
on
qu'est-ce que ce serait le pire ?
Le pire, ça serait de ne rien faire. Tout simplement. Ce qu'on appelle le BAU, le business as usual, c'est-à-dire qu'on remet toujours à plus tard les décisions importantes à prendre.
Alors, Guillaume, vous avez essayé de rencontrer des élus sur toutes ces côtes. Bon, ça représente déjà un certain nombre de pays. En fait, combien il y a de pays autour de la Méditerranée ?
Il y a 21 États reconnus par l'ONU.
21, oui. C'est beaucoup, finalement.
Oui. Donc, plus, ça vous plus, fait... Plus l'Union européenne, qui est également membre de la Convention de Barcelone, qui a ratifié la Convention de Barcelone.
Bien, alors, vous êtes obligé de travailler avec tous. Hein. On espère à part égale, mais je pense que forcément, tout le monde n'est pas au même niveau.
Si, à la COP, c'est un État, une voix, oui.
Un État, une voix, oui, ouais. mais quand je parle de niveau, je veux dire de niveau d'information peut-être sur l'environnement. Tout le monde n'est pas sensibilisé de la même manière.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression quand même que les élus commencent à vous suivre un peu ?
Alors, il y a une évolution générale hein, de la population, comme des élus, comme des décideurs, comme des chefs d'entreprise, comme de la société civile, vers une prise de conscience environnementale accrue. On le voit dans tous les pays. Avec
Mais c'est des mots ou c'est des actes ?
Non. C'est la prise de conscience, c'est une prise de conscience. Ça n'engendre pas forcément des actes ensuite, mais c'est la première étape avant d'agir. Et donc, cette prise de conscience, elle est évidemment à des niveaux inégaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas forcément, et difficile pour nous, c'est qu'elle n'est pas forcément sur les mêmes sujets dans les différents pays. Bon, si je prends l'exemple des pays de la rive sud de la Méditerranée, ils ont un problème très présent à l'esprit, qui est le problème des déchets. Et ils nous demandent quelquefois de les aider à résoudre ce problème.
Or, et chez nous, par exemple, est-ce que les élus commencent à être un peu sensibilisés ?
Oui, bien sûr, ils sont nettement plus sensibilisés qu'il y a 20 ou 30 ans, il n'y a pas de doute là-dessus, oui.
Alors, parmi les scénarios, il y avait celui, bien sûr, de la montée des eaux. Et est-ce que c'est quelque chose, c'est de l'ordre de Madame Soleil ou c'est quelque chose de sérieux ?
Alors c'est un peu Madame Soleil parce que c'est aussi le fait que le soleil, on voit donc des rayons qui sont piégés par les gaz à effet de serre et donc la température s'élève. Donc, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la montée de la mer est liée à trois causes. Hein, le gonflement de la mer en raison de la température, la fonte des glaciers terrestres et la fonte des calottes glaciaires. Et donc, ces trois effets se combinent pour avoir une hausse à peu près de l'ordre de 4 mm par an, ce qui paraît peu, mais le mot important à signaler tout de suite, c'est l'accélération du phénomène. Et donc, ce qui fait que ce qu'on avait anticipé il y a une vingtaine d'années se produit plus tôt que prévu.
Par ailleurs, les choses s'accélèrent.
Oui, les choses s'accélèrent. On avait par exemple, en matière de climatologie, on avait anticipé qu'il apparaîtrait des méga-feux, des feux gigantesques sur le modèle de la Californie, dans la région à partir de 2030. Or, en fait, on a déjà eu un méga-feu, au moins un, celui qui a eu lieu en Grèce. il y a deux ans.
Dans les Pyrénées, il y en a eu aussi l'année dernière un peu. Oui, c'est pas des méga.
Non, c'est pas ce qu'on appelle des méga feux. C'est-à-dire des feux dans lesquels on ne peut pas maîtriser ce qui se passe. On espère que bon, ça va se calmer, que le vent va tomber, etc. Donc ça n'était attendu qu'à partir des années 2030. Donc on voit qu'on est en avance de phase, ce qui est une des preuves de l'accélération du phénomène. Idem pour les problèmes de pénurie d'eau, par exemple. Les vagues de sécheresse n'étaient pas censées durer aussi longtemps, les pénuries d'eau non plus. Donc on s'aperçoit qu'avoir alerté il y a 10 ans sur des phénomènes qui allaient arriver dans 10-15 ans, en fait, a été quand même utile dans la mesure où maintenant on sait mettre un nom, un mot, un mécanisme à quelque chose qui arrive finalement plutôt que prévu. Donc ça, c'est toujours un avantage.
Alors on a vu, vous évoquiez les déchets pour les pays du Sud. Mais il y a quelque chose qui va quand même nous unifier, un problème qui va nous unifier nord, sud, est, ouest, c'est la question de l'eau et des plastiques, je suppose.
Oui, bien sûr, les plastiques, c'est déjà le cas. L'eau, jusqu'à présent, c'était un problème qui se posait davantage dans les pays de la rive sud, qui d'ailleurs ont, depuis très très longtemps, depuis des siècles, appris à gérer l'eau de façon économe, et dont on voit que maintenant, il touche les pays de la rive nord, un peu plus à l'ouest d'ici, hein, les Pyrénées-Orientales.
Alors, est-ce que le Sud a des choses à nous apprendre ?
Bien sûr.
Et le plan bleu essaie de faire ça.
On essaye de diffuser ce qu'on appelle les best practices, c'est-à-dire les meilleures pratiques. Bon, dans un domaine autre, le Maroc a fait une assez bonne réforme des subventions dommageables à l'environnement, ce que d'autres pays n'ont pas fait. Donc, on essaye de promouvoir ces exemples-là pour montrer que c'est possible puisque d'autres pays l'ont fait.
D'accord. Alors, Denis, vous disiez que dans les 6 scénarios, il n'y en a pas un pessimiste, il n'y en a pas un optimiste. Ils sont finalement fonction de ce qu'on en fera. Mais quel est celui que vous-même, vous aimez particulièrement ?
Oui, alors il y en a un qui est symboliquement très fort. Il part de la Méditerranée, de la Grande Bleue, comme on dit. Tout le monde rêve d'une Grande Bleue qui soit un trésor de nature, de richesse biologique, d'émerveillement, et surtout qu'il le reste. Alors qu'en fait, on sait que cette mer, elle est très menacée. Donc, on pourrait partir d'une idée toute simple, c'est de restaurer finalement la qualité de la Grande Bleue. Et si on veut le faire, avec notamment une contribution au niveau international très large, au-delà des pays riverains, parce que sinon c'est une charge extrêmement lourde, mais finalement, bon, il y a beaucoup de touristes qui viennent de l'extérieur, qui profitent de la qualité de la mer, donc ils pourraient y contribuer. Donc on peut imaginer une taxation du tourisme sur 350 millions de visiteurs internationaux. On pourrait avoir une ressource régulière de financement.
Et si Alors, on veut voilà avoir... une idée.
Voilà une idée toute concrète.
Hein. Concrète, toujours liée d'ailleurs au problème du tourisme. Il y a une deuxième idée qui a été émise, c'est celle finalement des carburants utilisés par les bateaux de croisière.
Oui, c'est plus qu'une idée. Il y a des réformes en cours dans ce domaine. On essaye, le trafic maritime utilise le fuel lourd, qui est un carburant très polluant. Et donc on essaye peu à peu d'améliorer la qualité de ce carburant et notamment une décision qui a été obtenue à l'avant-dernière COP de la Convention de Barcelone et qui va entrer en vigueur le 1er mai de cette année, c'est la quasi-suppression du soufre qui est contenu dans ce carburant lourd qui va améliorer, diminuer les effets sur la santé de ce carburant et diminuer les effets sur la biodiversité également négatifs. Donc c'est une réforme assez importante et il y a d'autres substances qu'on va essayer ensuite sur lesquelles on va essayer d'obtenir des accords pour les éliminer de ces carburants, mais c'est un travail qui prend plusieurs années.
Alors, de tous ces scénarios, Denis, quelle action vous paraît prioritaire aujourd'hui ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir des solutions pays par pays. Il faut d'abord et avant tout travailler ensemble. On a au moins un bien commun à partager, qui est la mer elle-même. Et puis, c'est ces rivages qui sont un trésor. Un trésor d'ailleurs, pas seulement actuellement, mais qui sont un trésor d'histoire, de patrimoine.
Oui, mais il n'y a rien de commun entre la Méditerranée et la Bretagne, par exemple.
Oui, mais bon, là je parlais des pays méditerranéens, et donc c'est vrai que la Bretagne a une autre vision du monde océanique. Mais en Méditerranée, tous ces pays qui sont riverains depuis des millénaires et qui partagent des cultures qui se sont entrecroisées, quelquefois avec quelques chocs, ont un intérêt en commun, c'est de gérer la qualité de cette mer. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les courants ignorent les frontières. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une politique, par exemple, très restrictive en matière de pollution dans un pays, parce que si le pays d'à côté, qui est en amont en matière de courant, bah, ne pratique pas cette même politique, on aura un résultat final médiocre. Donc, pour moi, la première condition, c'est de s'entendre autour d'une table, de s'écouter. Il peut y avoir des différends très forts entre les pays, et on le constate d'ailleurs, mais la mer s'avère à l'évidence comme un grand bien commun naturel. Tout comme l'atmosphère d'ailleurs, hein, il y a deux fluides sur Terre, l'air et la mer.
Mais à vous entendre tous les deux, on a l'impression finalement que la solution pourrait venir de ce que vous appelez les COP, de ce que vous appelez cette réunion de la Convention de Barcelone, etc. Et finalement, comme si la solution pouvait venir des États. Vous pensez que cette solution, elle est effectivement dans la main des États?
Alors, d'abord, il y a une partie des solutions qui viennent de l'intérieur de chacun des États. Les États ont leurs propres droits, leurs propres réglementations, et donc ils peuvent prendre des lois, des décrets pour davantage protéger l'environnement, davantage intégrer l'environnement dans le développement, etc. Ensuite, une partie de la solution vient des élus. Les élus, par exemple, si on prend l'exemple de la France, ils ont les pouvoirs d'urbanisme, qui est une compétence énorme, et les pouvoirs d'urbanisme sont très importants dans les communes littorales et même dans les communes rétro-littorales pour éviter les constructions trop nombreuses sur le littoral, capables d'être submergées ou dans des zones où il y a des rochers érodés. Et donc ça, c'est très important. Et ensuite, il y a l'aspect international, qui est soit l'aspect international global, par exemple, on parle beaucoup d'un traité sur le plastique en ce moment, mais qui n'avance pas beaucoup, soit la coopération multilatérale régionale, qui est celle dans le cadre de la Convention de Barcelone.
Et donc, qui est celle dans laquelle le cadre
C'est celle qui a permis, par exemple, cet accord CECA sur la quasi...
Alors, l'accord CECA, c'est quoi?
C'est justement la quasi-suppression du soufre dans les fioul lourds.
Et donc, ça, on va le voir arriver...
Le 1er mai de cette année.
Le 1er mai de cette année.
Alors, c'est très technique pour les auditeurs, mais c'est quand même une avancée très importante en matière d'environnement et de santé humaine.
Très bien. Alors, revenons quand même à ce bien commun pour tous. Là, on vient d'évoquer les élus, on vient d'évoquer les États, mais le citoyen a quand même un rôle à jouer dans tout ça.
Bien sûr. Avant de parler du citoyen, je citerai un autre exemple de coopération réussie, c'est la sauvegarde du thon rouge.
Bien sûr.
Qui était surpêché, et on pensait que c'était perdu et que de toute manière, on n'arriverait pas à freiner les appétits des industriels et des pays qui étaient en concurrence là-dessus. Et puis, un peu contre toute attente, on a réussi à, grâce à une organisation internationale qui s'est mobilisée complètement, puis de proche en proche, tous les pays qui ont joué le jeu, à imposer des quotas, et aujourd'hui, le thon rouge, pour sont emblématiques de la Méditerranée, est de retour et c'est une richesse qui est à nouveau partagée intelligemment. Donc c'est pour faire pièce un petit peu à toutes les personnes qui parlent que de catastrophes, de ruptures irréversibles, etc. Je crois que quand les pays et les personnes, les acteurs, ont décidé de se mettre au service d'un projet en commun, ils peuvent y arriver et il y a de très belles réussites. Alors dedans, bien sûr, il y a le citoyen. Parce que dans son comportement individuel, au bord d'une plage, par exemple, ne pas jeter des mégots ou des canettes d'aluminium ou de... Bon, je préférais les déplacements avec des... en vélo plutôt qu'en voiture. Choisir ce qu'on consomme pour son alimentation, les vêtements dont on s'habille, etc. Tout ça, ça a un impact aussi. Et le plastique, naturellement, c'est quelque chose... On est en contact avec des sacs en plastique plusieurs fois par jour. Eh bien, notre comportement vis-à-vis d'eux est important aussi. On n'est pas obligé de demander un sac en plastique quand on emporte des médicaments en sortant d'une pharmacie.
Ça va sans doute être une de nos grosses, une grande cause dans les années qui viennent. Alors, on sait que en juin prochain, on va avoir une réunion onusienne qui se passe en France. Ce qui est quand même, qui mérite donc qu'on en parle un petit peu. Donc l'UNOC 3, enfin ou l'UNOC 25, hein, selon qu'on l'appelle. Et on va essayer de gérer un peu toute la législation qui faisait que l'océan était un espèce de grand Far West où chacun venait prendre ce qu'il voulait, les transports, la pêche, le tourisme... Tout le monde faisait son petit ménage. Et puis, finalement, il n'y avait pas... donc, on espère que ce sera un moment important. Est-ce que le plan bleu va jouer une carte dans cette UNOC?
Alors d'abord, la conférence des Nations Unies donc, sur les océans est un cycle qui a été lancé par les Nations Unies, donc ce qui est une très bonne chose. Et on est effectivement à la troisième grande conférence. Et alors il faut préciser que c'est une conférence au niveau des chefs d'État. Donc c'est très important, c'est le plus haut niveau de représentation. Et l'idée, évidemment, c'est de faire avancer un certain nombre de négociations, voire d'annoncer un certain nombre de mesures, voire d'avoir des mesures concrètes avant, tant sur le plan national que sur le plan international. Et puis par ailleurs, comme il se trouve que ça se passe à Nice, ce qui n'était pas tout à fait attendu, parce que souvent ce genre de réunion se passe plutôt sur la façade atlantique de la France, eh bien évidemment, il y aura une partie qui sera consacrée à la Méditerranée.
Alors il y a le 10 juin, qui est la journée de la Méditerranée.
Voilà. Bon, il n'y aura pas seulement ça, parce qu'il y aura aussi des side events sur la Méditerranée à côté. Et donc on espère, on y travaille en tout cas, qu'il y ait des mesures qui concernent la Méditerranée, qui puisse aboutir à ce moment-là.
Bon, donc on se retrouverait de toute façon, on en reparlera à ce moment-là. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux.
Et merci. Voilà. Merci.
Je pense que sur les scénarios, on aura encore plein de choses à dire, mais on aura l'occasion sans doute de réinviter Denis Lacroix, puisqu'on a la chance qu'il soit le local de service. Voilà.
Avec les auditeurs peuvent consulter le rapport sur le site du Plan Bleu, hein, planbleu.org. Il est accessible et en libre accès.
Très bien, donc c'est important aussi. Eh bien, écoutez, merci à tous, bonne fin de semaine. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Frédéric Danez pour parler des sols.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.